Peuple Lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni.
Bonjour et bienvenue dans le Peuple Lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà être écrivain ce n'est pas facile, être juif au XXe siècle c'est pas folichon non plus, mais alors être écrivain juif au XXe siècle, c'est le creuset, sous haute pression, de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les champs les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. Elisabeth Schuller, née en 1869 à Wuppertal, la ville de Friedrich Engels et de Pina Bausch, donc disons, ville d'art et d'engagement. Else est la cadette de 6 enfants. Elle épouse le médecin Bertold Lasker, déménage à Berlin, étudie et pratique le dessin et publie ses premiers poèmes. 9 ans après son mariage, elle divorce et épouse Georg Lewin, qu'elle rebaptisera Erwart Walden, artiste expressionniste et promoteur de l'avant-garde allemande. Lui-même la nomme à ce moment Else Laxer Schuller, et c'est sous ce nom qu'on la connaît aujourd'hui. Ils divorcent 7 ans plus tard. En 1933, face à la montée du nazisme, elle quitte l'Allemagne pour la Suisse et fera dans les années suivantes 3 voyages en Palestine. C'est à Jérusalem qu'elle mourra en janvier 1945. Ses œuvres ne seront traduites que bien plus tard en français. Ses recueils de poèmes, Mon piano bleu ou Mes merveilles, son roman autobiographique, Mon cœur, ou ses nouvelles, dans Le prince de Thèbes ou Le rabbi miraculeux de Barcelone. Son style est très lyrique, riche en images et en intensité. Finalement, Else Laxer Schuller marque plus par ce qu'elle représente dans le monde berlinois de l'époque, par son anticonformisme et l'inspiration d'un orientalisme fantasque qu'elle apporte, que par ses œuvres. Quoiqu'elle ait reçu le prix Kleist, l'un des plus prestigieux prix littéraires allemands, c'est le propre de la poésie. Ce qu'il en reste, c'est moins des mots qu'une musique, une personnalité, une âme. Et pour la mettre en musique, justement, Sarah Leander, dans « Nur nicht aus Liebe weinen »,« Ne pleure pas d'amour ».
Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht. Wir werden vom Schicksal getrieben und das Ende ist immer Verzicht. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Verschenken ist es das alte Lied. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt, und darum will.
Ne pleure pas d'amour, il n'y en a pas qu'un sur Terre, il y en a tellement dans ce monde. Ich liebe jeden, der mir gefällt. C'était Sarah Leander sur Nur nicht aus Liebe weinen. De l'amour à la mort, en poésie du moins, il n'y a qu'un vers. Lisons un extrait de Fin du monde en français, puisque l'invité vous récitera bien mieux que moi Else Laxer Schuller en langue originale. Il y a un pleur dans le monde, comme si le bon Dieu était mort, et l'ombre de plomb qui tombe pèse comme un tombeau. Viens, nous nous cacherons plus proche. La vie repose au fond des cœurs, comme en des cercueils. Toi, nous nous embrasserons à pleine bouche. Contre le monde, frappe un désir dont nous devrons mourir. C'est un poème qui parle d'une rupture, mais on peut y entendre un écho du destin de l'Allemagne des années 30, de la fin d'un monde, de la vie en exil, ou, comme dit la poétesse, en cercueil. Pour en parler tout de suite, nous avons la joie de recevoir Madame Spector, germaniste, spécialiste de la littérature et de la culture allemande. Aujourd'hui, nous recevons Madame Spector, maître de conférences en langue et littérature allemande, agrégée d'allemand, qui a travaillé sur l'œuvre de Georg Büchner, l'auteur de La mort de Danton, et qui nous fait le plaisir de venir parler d'Else Lasker-Schüler. Merci beaucoup et bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de vous voir et particulièrement en ce moment, puisque vous me disiez que Else Lasker-Schüler avait une surprenante actualité.
Absolument. Il se trouve que je me suis rendue au musée Picasso, où il y a actuellement l'exposition de l'art dégénéré, et j'ai eu la surprise de voir un portrait de Else Lasker-Schüler, un portrait en pied par Jankel Adler, qui a été exposé aux États-Unis, en Angleterre, et dont certains tableaux se trouvent au musée d'Israël actuellement. Donc on peut voir Else Lasker-Schüler actuellement au musée Picasso.
En plein Paris.
En plein Paris.
Et est-ce que vous trouvez que son œuvre a une actualité aujourd'hui ?
Son œuvre a une actualité. Je crois qu'elle aura toujours une actualité, dans la mesure où elle présente un peu l'exil juif et l'errance juive, puisque Else Lasker-Schüler était née à Elberfeld, aujourd'hui on dit Wuppertal, donc en Westphalie, dans une famille juive assimilée, et elle a fini ses jours, refusée en Suisse, où elle a essayé d'aller après 1933 évidemment, et elle a fini sa vie en Israël.
Et donc Else Lasker-Schüler, c'est une figure unique de la poésie expressionniste, mais vous, pour vous, qu'est-ce qui caractérise son style, sa vision du monde ?
Ben, ce qui caractérise son style, c'est l'imaginaire, c'est le fantasmatique. Elle est toujours balancée entre la réalité qu'elle quitte très vivement et un présent, mais est en fait un présent imaginaire. Et sa poésie est une poésie vraiment magnifique, une langue très très riche. Et elle a été qualifiée par Gottfried Benn, qui est un des grands auteurs allemands, qui d'ailleurs malheureusement a été proche du nazisme, dont il s'est éloigné après. Il a tenu un discours après la guerre où il dit d'elle qu'elle est la plus grande poétesse de langue allemande, et il voit en elle, ce qui me paraît par ailleurs une vision fausse, une symbiose de la judaïté et de l'Allemagne. Symbiose sur laquelle on peut se poser beaucoup de questions.
Oui, surtout de la bouche d'un sympathisant nazi,
voilà,
si j'ai bien
qu'il
compris.
Qu'il a été, oui.
Et au-delà de la poétesse, c'était aussi une femme.
Absolument, absolument. Alors son nom d'abord, elle était née Elisabeth Schüler, née d'une famille aisée, son père était banquier, la cadette de 6 enfants, considérée comme un petit génie qui a très tôt commencé à lire, à écrire. Et elle a épousé le docteur Lasker, qui était un médecin relativement connu. Et quand on regarde les photos de Else Lasker-Schüler, on voit son évolution. Elle a commencé comme jeune bourgeoise, et elle est devenue cette espèce de bohémienne extravagante de la modernité berlinoise. Et après avoir connu très brièvement une vie stable, elle a passé toute sa vie dans des cafés, dans des bancs publics même, et dans des hôtels. Quand elle est arrivée en Israël, qui à l'époque était évidemment la Palestine, elle a vécu, grâce aux dons de ses nombreux amis, allemands aussi, qui étaient réfugiés, juifs allemands évidemment, qui étaient réfugiés comme elle à Tel Aviv.
Et vous pensez que ce mode de vie qu'elle a connu, très, très libre, très anticonformiste, a influencé son œuvre ? Est-ce qu'on voit la même évolution
Absolument.
Dans son œuvre que dans les
c'est
photos ?
Complètement. C'est une écrivaine de la rupture. C'est la rupture avec le passé, c'est la rupture avec l'Allemagne prussienne, avec l'Allemagne wilhelminienne, et c'est la modernité, aussi physiquement. Elle avait les cheveux très courts, ce qui à l'époque était très nouveau, avec un physique un peu androgyne, quelque cultivait. Elle a été vraiment la reine de Berlin à un moment donné. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une rencontre qui est décisive dans sa vie. Donc elle divorce de son médecin de mari, avec lequel elle est restée en bon rapport, dont elle a eu un fils. Enfin non, justement, elle dit que le fils n'est pas de lui, ce serait le fils d'un prince grec. Alors là, on est tout à fait chez Elsa Lascochul, une vie rêvée en quelque sorte. Et elle fait une rencontre déterminante qui est la rencontre de Kurt Lewin, qu'elle va changer son nom. Il va devenir Hervat Walden. Walden, pourquoi ? Walden est le nom d'un le titre d'un roman américain, Walden ou la vie dans les bois, par Thoreau. Et donc il y a toujours, donc elle l'a transformé en quelque sorte. Et avec ce nom, lui est devenu l'éditeur du Sturm. Et le Sturm était la revue essentielle de l'expressionnisme allemand, aussi bien pour les poèmes que pour les dessins. Et j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que Elsa Lascochul était aussi dessinatrice. Et en fait, son mari, parce que c'est avec lui qu'elle est son premier mari, donc Dr. Laska, quand ils sont venus à Berlin, voulant lui faire plaisir, lui a fait donner des cours de dessin et a même mis à sa disposition un atelier. Il était très tolérant apparemment, il pensait qu'elle avait du génie, qu'il fallait la laisser faire. Et alors vous me posiez la question de son extravagance, elle l'a cultivée cette extravagance. Elle l'a cultivée, elle était excentrique, extravagante, elle portait des vêtements un peu orientaux, des turbans, des tas de bracelets, qui étaient kitsch évidemment parce qu'elle n'avait pas d'argent du tout, mais disons elle ne pouvait pas passer inaperçue dans les rues de Berlin.
Oui, on voit la manière dont elle se représente dans ses propres dessins sous les traits d'un prince oriental.
Absolument, absolument. Et là, je dois dire aussi qu'elle a adopté des noms. Elle a adopté d'autres noms, évidemment, que Else. Elle signait souvent Prince Yusuf. Prince Yusuf von Theben. Alors on doit se demander pourquoi Yusuf. Eh bien, on penserait plutôt à Joseph. Alors il semble, d'après ce qu'on sait, que sa mère aimait lui raconter des histoires bibliques et qu'elle était fascinée par l'histoire de Joseph, chassé par ses frères, accueilli par le pharaon, devenu riche et important donc en Égypte, mais pour elle c'est Yusuf von Theben, et Theben c'est l'Égypte, hein, c'est ça, et qui ont évidemment interprété les rêves. Alors elle signe souvent Prince Yusuf von Theben, ou bien elle signe aussi Tino von Bagdad.
D'accord, donc on reste dans l'orientalisme.
Oui, alors là peut-être qu'il faudrait dire un mot. Justement, elle avait le goût, au fond, de la transformation, du changement. C'est-à-dire aussi bien ses noms que ses vêtements, que son physique même. Elle a été très jolie jeune d'après les photos. Et puis après, c'est très triste à voir les dernières photos en Palestine. Elle est hagarde et elle est en particulier entretenue par quelqu'un de très connu qui s'appelle Schocken. Schocken était un grand éditeur juif allemand qui a édité les plus grands, qui est parti ensuite en Palestine et qui a fondé un journal qui existe toujours, puisque c'est le Haaretz. Et ce sont ses enfants, petits-enfants plutôt, qui sont encore à la tête de ce journal. Et donc elle a été aidée par tous ces gens parce qu'elle n'avait vraiment pas de quoi vivre. D'autre part, j'ai l'occasion de vous dire tout à l'heure que Gershom Scholem, quand il l'a vue, était tout à fait désespéré pour elle et a dit que Israël, enfin le pays de la Palestine ne correspondait en rien à ce qu'il imaginait, à cet Orient imaginaire dans lequel il vivait.
Oui, c'est une désillusion qu'a aussi connue Léo Peyrouth. On a connu beaucoup de poètes qui rêvent la vie.
Qui rêvent une vie. Oui.
Et justement, en parlant aussi d'un autre choc de l'exil, le choc de la langue, on dit souvent que la langue de Else Lascochul est hermétique, est difficile, est très lyrique.
Hermétique, je dirais surtout qu'elle est flamboyante.
Et c'est difficile à traduire.
Elle est magnifique. Et là, alors j'aimerais peut-être vous lire un passage.
Bien sûr.
Eh bien, je vais vous en lire un qui s'appelle « Mein Volk ». Der Fels wird morsch, dem ich entspringe und meine Gotteslieder singe. Je stürzt sich vom Weg und riesle ganz in mir, fernab allein über Klagestein, dem Meer zu. hab mich so abgeströmt von meines Blutes Moosvergorenheit und immer, immer noch der Widerhall in mir, wenn schauerlich gen Ost das morsche Felsgebein mein Volk zu Gott schreit. J'aimerais vous lire la traduction que j'en ai faite. Le roc d'où je jaillis, auquel je chante mes cantiques, s'effrite. Impétueusement, je descends le chemin et ruisselle en moi-même, au loin, solitaire, par-delà les pierres de lamentation, jusque vers la mer. Mon flot s'est tellement écarté du mou acre de mon sang, et toujours et encore en moi, l'écho, quand tourné vers l'est. Terrible le roc, ossement effrité, mon peuple crie vers Dieu. On voit très bien que ce poème est la métaphore de l'ambivalence de la vie juive. C'est-à-dire qu'il y a le fleuve qui part, déjà des ossements effrités, et qui vont vers la mer et qui se perdent. C'est déjà aussi l'image d'une forme d'assimilation qui ne peut pas se faire. Mon peuple crie vers Dieu.
Encore une fois, dites-moi si je fais un contresens, mais quand j'entends l'eau qui jaillit du roc, je pense aussi au roc de Moïse.
Mais oui, vous avez tout à fait raison, et moi j'y pense aussi. C'est le roc qui jaillit, effectivement, l'eau qui jaillit du roc, comme Moïse, mais qui finit par se perdre.
Qui annonce les désillusions de l'exil.
Dans la mer qui se perd. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve très très souvent chez elle, cette ambivalence là d'où elle vient et là où elle ne peut pas aller, et où elle va finir ses jours, mais en y étant mal. Si vous voulez, il me semble très caractéristique de cette dualité de la vie juive, et je voudrais la citer Goethe peut-être. Goethe a écrit quelque part, c'est un vers connu, « Zwei Herzen, zwei Kräften wohnen in meiner Brust ». Deux forces sont dans mon cœur. Elle-même a écrit une œuvre peu connue qui s'appelle « Ich und ich »,« Moi et moi ». Il y a toujours cette idée de l'ambivalence, en fait, et de l'impossibilité d'être ce qu'on est. Et si je peux vous lire un poème qu'elle a écrit sur la langue, que je trouve tout à fait admirable et qui dit beaucoup de choses.
Bien sûr, et ce sera aussi une traduction par vous-même.
Non, celle-là, c'est une traduction de Jean-Yves Masson dans l'anthologie de la poésie allemande, je crois bien.
Très bien.
Donc celle-là n'est pas de moi. Je vous lis en français, je vous lis peut-être les deux premiers vers en allemand quand même, parce que ils sont simples. « Ich kann die Sprache dieses kühlen Landes nicht und seinen Schritt nicht gehen. » Je continue en français, c'est quand même plus facile. « Je ne sais pas la langue de ce froid pays, ni emboîter son pas. » Les nuages qui passent, je ne sais pas non plus les déchiffrer. La nuit sur son trône est une marâtre. Je ne puis m'empêcher de penser toujours aux forêts des pharaons. Et j'embrasse les constellations de mes étoiles. Mes lèvres déjà s'illuminent et parlent de choses lointaines. Et je suis un livre d'images en couleur, ouvert sur mes genoux. Mais ton visage tisse un voile de pleurs. On a ôté leurs courroux à mes oiseaux diaprés. Sur les haies des jardins, leur nid soyeux se pétrifie. Qui donnera l'onction à mes palais morts? Ils portaient les couronnes de mes pères. Leurs prières ont sombré dans le fleuve sacré. Vous retrouvez, je crois, à propos de la langue.
On retrouve les problématiques de la langue, de l'exil, on retrouve le thème de l'eau, du fleuve qui s'écarte.
Absolument, je l'ai magnifique, en langue allemande magnifique, et je trouve qu'il a été assez bien traduit. Ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que cette femme a été honorée du plus grand prix littéraire allemand, qui est le prix Kleist. Et il y avait déjà évidemment l'extrême droite et les nazis qui s'annonçaient, et on a dit que c'était une honte que ce prix soit donné à la fille d'un cheikh bédouin. Oui, c'est l'expression qui a été utilisée. Oui.
C'est pour parler de Else Lasker-Schüler, de la symbiose, donc.
Elle a toujours cultivé un orientalisme parfois de pacotille et parfois magnifique, hein, parce qu'elle avait les deux aspects, évidemment.
Et qui correspondait à la vision de Loriot qu'on avait à l'époque aussi.
Absolument, absolument, oui. Et ce prix, je dois dire, elle a été la dernière avant la venue au pouvoir de Hitler à recevoir ce prix. Il n'a pas été décerné pendant la guerre et après, il a été décerné avant, je dois quand même vous dire, à Brecht et à Musil, ce qui montre un peu quand même la stature de Lascachul. Et après la guerre, ben, j'ai vu qu'il a été décerné à Hertha Müller, qui a eu le Nobel après.
Enfin, oui, bon, les voilà. Professeurs sur la Terre. Voilà. Et peut-être une dernière question pour les auditeurs. Qu'est-ce que vous conseillez pour quelqu'un qui ne connaît pas Else Lasker-Schüller ou qui voudrait la redécouvrir? Par où commencer?
Bien, malheureusement, elle a été peu traduite. Alors, il y a quelques poèmes toujours dans l'anthologie de la poésie allemande, je crois, dans la Pléiade, mais ce n'est pas grand-chose. Par contre, j'ai vu qu'avait été édité en 1995 une traduction d'un de ses cycles de poèmes qui s'appelle « Mon piano bleu ». Donc on peut...
Donc la traduction de ses poèmes dans Mon piano bleu, vous me parliez aussi de ses dessins
Alors ces dessins sont dans des... sont pour la plupart, je crois... Bon, il y a un musée à Wuppertal, donc là où elle est née, qui lui est consacré. Il y a d'ailleurs une société qui lui est consacrée, Else Lasker-Schüller-Gesellschaft, et là on peut les voir, et il y en a aussi dans des collections privées. Alors je voudrais ajouter quelque chose aussi à propos de son activité de peintre et son intérêt, c'est qu'elle a été une grande amie de Franz Marc, le cavalier bleu, comme vous savez, et des cartes postales de Franz Marc ont été adressées à Else Lasker-Schüller. Je ne sais pas où elles se trouvent, je dois vous dire franchement, mais elles doivent être conservées quelque part, parce que ce sont des cartes qu'il a dessinées. Donc des cartes de Franz Marc. Et lui, malheureusement, est mort, comme vous savez sans doute, pendant la guerre de 14. Elle a perdu beaucoup de proches pendant la guerre de 14. Et là aussi, lui est arrivé un grand chagrin, puisque après sa mort, elle a tenu à rendre visite à sa famille. C'était, il faut dire, une très grande amitié entre elle et Marc. Et cette famille était antisémite. Chose qu'elle ignorait, parce qu'elle n'avait jamais eu de contact avec eux avant.
Oh. Eh bien, c'est une bonne occasion pour les Alsaciens d'aller visiter les musées de Wuppertal, de revoir les œuvres Blauerreiter qui se trouvent assez facilement un peu partout en Allemagne. Oui. Je crois bien qu'il y en a quelques-unes à Baden-Baden.
Oui, il y a le mouvement des Brücke, il y a plein de choses.
Et donc, je vous remercie beaucoup, Mme Spector, pour avoir partagé vos propres traductions de Else Lasker-Schüller et pour avoir fait connaître cette autrice qui est encore très peu connue car très peu traduite en France. Merci beaucoup.
Un grand merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler d'elle.
Le Peuple Lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni.